Après deuxième séance du cycle, en lisant, en écrivant, j'ai choisi une œuvre très populaire, l'une des plus vendues dans le monde, hein, après la Bible, bien sûr. Je savais pas que c'était aussi populaire, d'ailleurs. Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, puisque le titre complet, c'est ça. C'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. C'est important. C'est une œuvre qu'on considère d'abord comme appartenant à la littérature enfantine, et c'est juste. Si Alice est un cadeau formidable à offrir à un enfant, ce qui reconduit d'ailleurs le geste de l'auteur à sa première lectrice, c'est entre autres parce que cette histoire peut nous accompagner toute une vie. En effet, elle autorise des types de lectures qui sont tellement différents qu'elle reflète et aiguillonne l'évolution psychique de qui le souhaite, l'enfance, la maturité et même la vieillesse. Au-delà de mon goût pour cette œuvre, j'ai trouvé que c'était propice de l'intégrer à ce cycle en raison même de la variété des lectures possibles. Alice nous conduit tout simplement à poser la question « qu'est-ce que lire ?» La bizarrerie de l'histoire, dont le sens littéral est un régal pour l'enfant, incite facilement l'adulte à chercher un sens figuré, une logique, comme les pièces en désordre appellent le puzzle, ce que l'auteur semble susciter et déjouer tout à la fois. On cherche quelque chose derrière le sens littéral. Cette chose, c'est ce qu'on appelle une interprétation. Alice appelle l'interprétation et déjoue l'interprétation. Les plus grandes figures intellectuelles s'y sont livrées, Deleuze, Lacan, etc. C'est très confortable, vous voyez, de venir après, quoi. Donc évidemment, je ne vais pas risquer un point de vue définitif sur ce texte. Je commencerai plutôt par ouvrir une liste de lectures possibles, une série d'interprétations, donc, qui n'exclut jamais la possibilité, souvent avancée par Lewis Carroll lui-même, du nonsense, qui est une notion vraiment, vraiment importante pour avancer dans la lecture d'Alice. Ensuite, je proposerai une perception de l'œuvre qui a au moins l'avantage d'être synthétique en termes d'utopie. Je pense qu'on peut lire Alice au Pays des Merveilles comme une utopie. Pays, land, wonderland, c'est bien des lieux, et des lieux qui n'existent pas. J'évoquerai également certains aspects d'Alice dont je m'inspire dans mon propre travail. Et enfin, donc, j'aimerais que nous fassions une lecture collective de mon passage préféré. Donc, première approche, une approche par la série des interprétations, quoi. La série des interprétations possibles. Alice comme manuel d'herméneutique, quoi, d'une certaine façon. Qui oscillerait ces interprétations entre deux citations données par le texte lui-même, hein, qui passe son temps à être contradictoire, voilà, qui n'a pas de problème avec ça. D'un côté, une parole de la Duchesse, page 199 de mon édition. Toute chose a une morale, si seulement on est capable de la trouver. Et d'autre part, une réplique d'Alice elle-même, Stuff and Nonsense, Baliverne et absurdité. Donc j'oppose une parole de la Duchesse pendant la partie de croquet, une parole d'Alice pendant le procès final. Évidemment, elles ont toutes les deux une valeur contextuelle, mais si on s'abstrait un peu de leur moment d'émergence, on entend d'un côté le régime presque totalitaire de l'interprétation, qu'elle soit morale, en l'occurrence dans la bouche de la Duchesse, ou de toute forme d'interprétation, si on extrapole, et de l'autre le refus de la signification. Stuff and nonsense. Le texte d'Alice oscille entre ces deux pôles. Je vais commencer par les possibilités d'interprétation, en écoutant même, provisoirement, la Duchesse, et en vous proposant donc une interprétation morale d'Alice. Premier type d'interprétation. C'est un texte destiné à un public enfantin, c'est-à-dire à des adultes en devenir, et de ce fait, il met facilement en place une interprétation en termes de leçons de conduite, déguisé en histoire, comme on cache un médicament pilé dans de la confiture de mur. C'est une fonction très courante donnée à toute la littérature, pour les enfants comme pour les adultes. C'est ce que les classiques appelaient le docere, la fonction docere, la fonction enseignée, quoi. Ce récit a l'air apparemment décousu en une succession de scènes insolites, et pourtant on peut y voir un fil conducteur qui serait celui d'un apprentissage du bien-vivre. Alors, je vais commencer par résumer ce récit, à gros traits, avant de vous proposer deux interprétations morales contradictoires mais possibles. Alice s'ennuie auprès de sa grande sœur, dans un jardin. Sa curiosité l'incite à suivre un lièvre qui possède un langage et une montre, jusque dans son terrier. Elle bascule dans le sommeil et dans le terrier, donc on change de monde. Une fois au fond, elle aperçoit un jardin magnifique par une porte trop petite pour qu'elle y accède. Elle boit alors d'un flacon qui la fait rétrécir, mais elle a laissé la clé de la porte sur une table trop haute. À partir de là, toute la première partie du récit consiste à mettre en place les conditions pour rejoindre ce jardin, manger ou boire la substance appropriée au moment opportun pour pouvoir passer cette porte. Cela ne va pas de soi et occupe environ les deux tiers de l'histoire. Alice se désespère, puis se ressaisit. Elle rencontre une série de personnages qui vont soit la retarder, soit l'aider à réunir ses conditions. Lorsqu'elle accède enfin au jardin, elle pénètre dans le monde du roi et de la reine de cœur, où elle joue une étonnante partie de croquet, puis participe à une parodie de procès, celle du valet de cœur, accusé d'avoir volé les tartes confectionnées par la reine. Elle se réveille lorsque la reine la menace et qu'elle proteste, en rappelant à toute la cour qu'ils ne sont qu'un paquet de cartes. Celle-ci s'envole, ce sont des feuilles mortes sur le visage d'Alice, qui se réveille sur les genoux de sa sœur. Point final. The Happy Summer Days. Ça se rappelle les heureuses journées d'été. Bon, une interprétation morale conventionnelle pourrait commencer comme suit. Du flacon initial aux tartes volées de la fin, il est question de bien boire et de bien manger tout le long d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire de la grande affaire de l'enfance. Bien manger, bien boire. Il ne faut pas seulement manger de la soupe pour grandir, puisqu'on peut même rétrécir en mangeant certaines choses, selon un principe de réversibilité très cher à Lewis Carroll, le logicien, j'y reviendrai. Il faut absorber la substance qui donne une taille adaptée aux circonstances. Au-delà de la question de la croissance, il s'agit donc d'une métaphore de la juste place à adopter en société, ce qu'Alice apprend à contrôler de mieux en mieux au fil de l'histoire. Il y a une scène formidable où elle déborde de la maison du lapin, tellement elle est grande. Et puis petit à petit, elle arrive même à anticiper sur la taille qu'il faut qu'elle ait pour rencontrer telle et telle personne, quoi. Donc elle se met à maîtriser cette aptitude. Les sales moments par lesquels elle passe s'apparentent à des punitions. Elle s'est montrée curieuse en suivant le lapin. Elle s'est montrée gourmande en mangeant ou en buvant telle et telle substance. Mais ses défauts ont l'avantage de la plonger dans des situations qui lui semblent à la fois fondées sur des bases absurdes, mais souvent logiques à partir de ces bases, ce qui lui enseigne le caractère à la fois arbitraire et réglé de la vie sociale. La longue quête vers le jardin merveilleux ressemble à un apprentissage de la persévérance, par-delà les premières frustrations, les découragements passagers. Total, en ce sens, vivre au pays des merveilles invite une petite fille à être à la fois sage, soumise, courageuse et avisée au pays de la réalité. On peut lire à peu près le contraire, une interprétation morale anticonformiste, mais qui serait toujours un enseignement. Donc on reste dans la logique du docker. Tu peux être curieuse et gourmande, par exemple, il faut regarder les choses en face, consommer des champignons hallucinogènes offerts par une chenille défoncée, tu t'en sortiras toujours. Le savoir scolaire ne te sera d'aucune utilité. Toutes ces leçons lui échappent, ça lui sert à rien dans les situations qu'elle rencontre. Sers-toi plutôt d'une apparence de gentillesse, donc en gros, apprends à tromper, quoi. Tous les usages sociaux sont absurdes. Il te suffit de les dénoncer comme arbitraires et tu t'en libéreras, ils s'envoleront comme des paquets de cartes dans le vent. Voilà, il y a ça aussi dans Alice, ce qui veut dire que c'est un texte qui a un caractère à la fois conservateur et explosif. À l'image de la vie de l'auteur, j'y reviendrai un petit peu, Lewis Carroll, mathématicien coincé, inventeur débridé, mais aussi de toute la culture britannique. Si vous vous souvenez que God Save the Queen est devenu un hymne punk, on est un peu dans le même genre d'ambivalence, quoi. C'est-à-dire que c'est un hymne punk, mais le Royaume-Uni est toujours un royaume. Les punks n'ont pas fait la révolution, quoi. C'est vraiment un trait très britannique, quoi, cet aspect à la fois insolite, anticonformiste et conformiste, quoi. En tout cas, dans les deux cas, on pourrait dire qu'Alice appartient au genre du conte, en l'occurrence le conte moral, comme la série des films de Romère, les six contes moraux. morale, on vient de voir pourquoi, même si c'est une morale anticonformiste. Conte, puisque c'est un récit merveilleux dès son titre, Alice au Pays des Merveilles, Wonderland, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, voilà. En outre, le terme même de conte est évoqué au sein même du texte comme une clé de lecture. C'est page 70-71 de mon édition, c'est assez rigolo. Donc je vous lis en anglais. Donc c'est une souris qui parle de son histoire, sa biographie, quoi. Et elle dit « Mine is a long and sad tale, said the mouse, turning to Alice and sighing. It is a long tale, certainly, said Alice, looking down with wonder at the mouse's tail. » Donc là, c'est une blague. Une souris parle de son histoire. Alice entend la queue de la souris, puisque tail et tail se prononcent pratiquement pareil. Ce qui occasionne, à la page suivante, ou presque, un très joli calligramme à partir de ce jeu de mots. Voilà là, le tail, tail. Une histoire en forme de queue, quoi. Le jeu de mots traduit le jeu de genre. C'est un conte, oui, et c'est un conte, non. C'est un conte, oui, histoire merveilleuse, etc. Et non, c'est trop long pour un conte. C'est trop peu centré sur une intrigue et sur sa résolution, ce qui est le principe du conte. Hein. Cendrillon est pauvre, elle devient riche, elle épouse le prince, à travers une série de péripéties, de tests, etc. Donc c'est un conte, oui, qui s'achève en queue, tail, de poisson. La fin n'est pas une conclusion, contrairement à la logique du conte. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un arrachement abrupt au sommeil. En ce sens, donc, Alice peut être interprétée, non plus seulement en termes moral, en termes de conte moral, mais comme un texte qui copie la logique du rêve. C'est la deuxième interprétation que je vous propose, une interprétation onirique. Onirique, le texte l'est, ou le mime en tout cas, dans sa construction, hein, cet aspect échevelé dont je vous ai parlé, avec pendant les deux tiers du texte un fil directeur très mince qui consiste à rejoindre un jardin à peine aperçu par une petite porte. Mais c'est un texte onirique également dans sa symbolique, et ce à deux titres. Alice semble jonchée de ce qu'avec Freud on peut appeler les restes diurnes, les souvenirs de ce qu'Alice a vécu dans la journée et qu'elle transforme. C'est très clairement signifié par le texte lui-même, hein, et de plus en plus à mesure qu'on se rapproche du réveil, c'est très bien fait. Exemple, pendant le procès du vol de tarte, lorsqu'Alice est appelée à la barre pour faire sa déclaration, elle est redevenue presque à sa taille normale, donc elle est beaucoup plus grande que les autres. Il y a même son voisin, le Loir, qui lui dit « Vous n'avez pas le droit de grandir ici ». Et elle lui dit « Mais vous aussi, vous êtes en train de grandir ». Elle lui répond « Oui, mais très lentement ». Donc, elle se lève pour aller faire son témoignage et nous dit le texte, nanana, de façon si précipitée qu'avec le bord de sa jupe, elle renversa le banc des jurés, culbutant ce dernier sur la tête des gens qui se trouvaient en dessous. Et là, il gigotait les pattes en l'air, ce qui lui rappela le bocal de poisson rouge qu'elle avait accidentellement renversé la semaine précédente. On est très clairement dans cette logique. Alors qu'au début de son rêve, elle pense beaucoup à son chat, qui va être ensuite complètement oublié au profit du chat du Cheshire, qui est vraiment un chat de rêve, quoi, qui n'est plus un chat de la réalité. Et on a même une relecture à peu près complète de l'histoire faite par la sœur d'Alice, une fois que Alice lui a raconté à son réveil ce qui s'est passé. La sœur, elle, voilà, c'est la grande sœur, donc elle incarne la raison, et elle retraduit tout en termes réalistes. Tout ce que Alice lui a raconté. Donc, c'est un dispositif assez savant. Alice raconte l'histoire à sa grande sœur, puis elle va prendre son thé, parce qu'il est tard. La grande sœur reste toute seule, et elle commence à rêver à son tour. Mais elle fait un rêve réaliste. Voilà ce qui lui arrive. Ainsi resta-t-elle, la grande sœur, assise les yeux fermés, se croyant presque au pays des merveilles, bien qu'elle sût qu'elle n'avait qu'à les rouvrir et que tout se transformerait en terne réalité. L'herbe ne bruirait que sous l'effet du vent, la mare ne se riderait que sous l'ondulation des roseaux, donc la mare, ça renvoie à la mare de larmes au début de l'histoire d'Alice. L'entrechoquement des tasses à thé, qui est un truc récurrent dans une scène autour d'une table où des fous prennent le thé ensemble, l'entrechoquement des tasses à thé se changerait en un tintement de clochettes à moutons, donc qui sont dans la campagne alentour, et les cris perçants de la reine en voix de berger, et l'éternuement du bébé, le cri aigu du griffon, et tous les autres bruits bizarres se changeraient, elle le savait, en une confuse clameur de basse-cour affairée. Tandis qu'au loin, le meuglement du bétail viendrait remplacer les lourds sanglots de la tortue façon tête de veau. The mock turtle. Ça, tout ça, ça relève de une vision du rêve en tant que transcription de la réalité, quoi. Une adaptation qui a sa logique propre de choses vécues. Le deuxième niveau de symbole qui est présent, à mon sens, qu'on peut percevoir comme présent dans ce texte, c'est un niveau qui renverrait davantage à ce que Lewis Carroll aurait pu concevoir comme l'inconscient d'une petite fille, et qui est traduit par le rêve. On peut voir effectivement dans un certain nombre de motifs, de situations, des situations transcriptibles en termes de libido, en termes de programme pour une petite fille qui va grandir. Et par exemple, au début du chapitre 8, l'arrivée dans le jardin, un très beau moment où des soldats de la Reine de Cœur repeignent des roses blanches en rouge avec de la peinture. Effectivement, on peut dire que le passage de la petite fille à la femme consiste à se repeindre de blanc en rouge, ce qui a de quoi faire travailler l'inconscient d'une petite fille, surtout à l'époque victorienne, qui est vraiment un contexte historique important pour comprendre Alice, quoi. Mais c'est aussi la psyché de l'auteur qu'on a voulu faire parler à travers ce texte, et pas seulement l'inconscient d'une petite fille. Donc c'est une troisième interprétation possible, l'interprétation autobiographique, qui recoupe un mode d'interprétation extrêmement ancien dans la littérature, qui est ce qu'on appelle la lecture à clé. La lecture à clé, c'est-à-dire le fait de voir dans des personnages de fiction des références à peine grimées à des personnages historiques, à des personnes ayant existé. De fait, les personnages d'Alice camoufleraient pour beaucoup d'entre eux des personnages de l'entourage de l'auteur. À commencer par Alice, bien sûr, qui est historiquement une petite fille que Lewis Carroll a beaucoup côtoyée, Alice Liddell, qui était la fille de son supérieur à l'université. Ses sœurs sont également assez directement évoquées, notamment par un jeu de mots sur Liddell et Little. Il est souvent question de Little Sisters, enfin il y a une scène où il est question de Little Sisters, qui sont en fait les Sisters Little, à peine grimées. En fait, tout l'épisode de la mare de larmes, qui est le deuxième épisode important du songe d'Alice, réunit des personnages qui seraient Alice, ses sœurs, leurs parents et d'autres proches de Lewis Carroll, par une allusion à un souvenir précis, une promenade qu'ils auraient fait qui se serait terminée sous la pluie pendant plusieurs heures. Ils auraient dû faire plusieurs miles sous la pluie. Et ce souvenir qui est marquant pour Alice a été transformé par Lewis Carroll comme une plongée dans la mare de larmes, quoi. Cette mare de larmes qui est une belle invention, hein, puisque Alice pleure alors qu'elle est à sa taille normale, et une fois qu'elle rétrécit, les larmes représentent une telle quantité d'eau qu'elle peut y nager, quoi, et qu'elle y nage même avec tout un bestiaire. Donc on peut vraiment décrypter cette scène comme une allusion très claire à la vie de Lewis Carroll, quoi, qui associe l'auteur et sa dédicataire, Alice. Bon, c'est une lecture qui a évidemment ses limites, et je suis souvent un peu agacé par le plaquage systématique du texte sur ces données-là. Mais il se trouve que Lewis Carroll est tellement fantaisiste qu'il rend cette lecture-là en elle-même stimulante, virtuose. Effectivement, dans le bestiaire réuni par la mare de larmes, il y a un oiseau formidable qui est un dodo. Donc le dodo, c'est cette espèce d'inadapté qui n'a pas survécu à la théorie d'évolution de Darwin, quoi. C'est vraiment un exemple fort pour Darwin, quoi, où écrit Lewis Carroll. Pour montrer que, ben voilà, il y a des choses qui ont disparu, qu'il y a des animaux qui n'existent plus. Donc c'est un oiseau populaire à cette époque, suffisamment pour qu'en parlant à une petite fille, Lewis Carroll soit sûr de savoir qu'elle voit de quoi il s'agit. Bon, c'est la fille d'un haut placé à l'université, mais quand même. Mais il se trouve que c'est très probablement un personnage qui représente Lewis Carroll lui-même, puisque Lewis Carroll s'appelait de son vrai nom Dodgson, et qu'il était bègue. Donc lorsqu'il se présentait, il disait « Do, Do, Dodgson ». Voilà, il semblerait que ce soit un jeu sur son propre nom et sa propre tare, ce qui est quand même très fort comme mise en boîte, comme manière de précéder les interprétations biographisantes. Bon, il y a plus que ce bégaiement, ce dodo répété. C'est un oiseau inadapté, disparu, qui a besoin du texte pour maîtriser le langage. Lewis Carroll, c'est ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le langage quand il écrit. et non pas quand il parle. Lewis Carroll, c'est un piètre enseignant de mathématiques qui a besoin du texte pour rendre la logique fantaisiste. Alors que dans sa vie, la logique n'est pas du tout fantaisiste, il enseigne la logique telle qu'elle est chez les mathématiciens. Un piètre enseignant aussi qui a besoin du texte pour recycler des blagues de potache, qui sont parfois lourdingues en elles-mêmes. Quand on analyse certains passages d'Alice, c'est des blagues scolaires pas très bonnes, mais dans le flux, ça fonctionne. Lewis Carroll, c'est un timide qui a besoin du texte pour déclarer son amour à des petites filles, puisque ce sont les seuls amours qu'on lui connaisse. Comme il a pu le faire par ailleurs avec d'innombrables photos, et c'est un peu la même logique, hein, c'est saisir sans toucher, photographier, ou écrire des histoires. Ces petites filles qui sont donc pour Lewis Carroll des objets de désir, apparemment demeurés désirs, pour reprendre cette citation de Char que j'évoquais la dernière fois, objets de désir que l'on comprend mieux si l'on songe aux rigueurs de l'époque victorienne et au modèle féminin très martial de la reine Victoria, dont ce texte est aussi un écho. En ce sens, on en arrive à une autre possibilité d'interprétation du texte, qui est une interprétation historique. Alice multiplierait les références à l'époque et au pays dans lesquels le texte a été composé. Donc j'ai déjà fait allusion un petit peu aux bienséances, les mœurs. J'ai fait allusion au dodo, qui est une découverte scientifique de l'époque. Mais aussi, bien sûr, le jeu de cartes, qui représente la cour, la monarchie britannique. Et même les roses, dont je proposais une interprétation psychanalytique en termes sexuels il y a quelques instants, et qui est analysée très clairement comme une référence historique par l'appareillage critique de la plupart des éditions d'Alice. A red rose tree, un rosier rouge. Lewis Carroll fait allusion ici à un épisode célèbre de l'histoire d'Angleterre, la rivalité sanglante pour posséder la couronne, qui opposa sous le nom de guerre des deux roses, de 1455 à 1485, deux branches des Plantagenets, qui donnèrent des rois d'Angleterre de 1154 à 1485. La maison d'York, d'un côté, Édouard IV, Édouard V, Richard III, avec dans ses armes une rose blanche, et celle de Lancaster, Henri IV, Henri V, Henri VI, avec dans les siennes une rose rouge. C'est par ailleurs l'histoire de l'Henri IV de Shakespeare, la transition entre les deux. La guerre des deux roses se termina par la victoire d'Henri Tudor, dernier Lancaster, qui accéda à la couronne sous le nom d'Henri VII et qui épousa Elisabeth d'York, donc qui a réuni les deux camps. Lewis Carroll construit consciemment un texte qui est aussi la caisse de résonance de l'histoire de son pays. Et je crois que ce qu'il faut peut-être le plus garder de la vie de Lewis Carroll dans ce texte, c'est l'hyperprésence du professionnel de la logique. S'il y a un trait de sa biographie qui est le plus prégnant et le plus fécond pour lire Alice, c'est celui du professeur de mathématiques. Lewis Carroll parvient à réunir ces deux choses qu'on a la bêtise d'opposer, et qui sont les mathématiques et la littérature. Donc c'est un grand logicien, hein. Il a même écrit il a écrit des tas de choses sur Euclide, et il a même écrit un manuel de géométrie facile. Bon, Alice est truffée de blagues logiques. Mais ce qui est très fort, c'est que c'est pas juste des blagues de potage, justement. C'est que c'est productif au niveau littéraire. On va prendre un exemple, qui est vraiment... c'est virtuose, quoi. C'est dans une scène où... Alice est en train de se régler au niveau physique, pour trouver la bonne taille, ou les bonnes modulations. Et, bon, c'est son dernier problème, quoi. Elle mange un truc qui fait que son cou pousse de façon démesurée. Bon, interprétation phallique, tout ce que vous voulez... Et du coup, elle aperçoit la forêt de haut. C'est une belle image quand même, quoi. Et pour pouvoir redevenir normale, il faut qu'elle retrouve sa main, qui est assez loin. Donc elle plonge dans les branches, et dans ce mouvement reptilien, elle essuie la colère d'un pigeon. Et voilà ce que le pigeon lui dit. Un sifflement aigu la fit reculer vivement, un gros pigeon s'était jeté sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» cria le pigeon. « Je ne suis pas un serpent, » dit Alice avec indignation. « Laissez-moi tranquille. »« Serpent, je le répète !» répéta le pigeon. C'est pas une très bonne traduction, même. « Serpent, je le répète !» répéta le pigeon, mais d'un ton radouci. Puis il ajouta avec une sorte de sanglot, « J'ai tout essayé, mais rien ne semble leur convenir. » Ce pigeon a déménagé des tas de fois pour essayer de trouver un endroit sans serpent, mais il n'y arrive pas. Donc, le pigeon renouvelle une interrogation, poursuit Alice toute la première partie du récit, qui est « Qui suis-je ?» Qu'est-ce que vous êtes, dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, dit Alice, d'un ton plutôt hésitant, en se rappelant le nombre de métamorphoses par lesquelles elle était passée ce jour-là. Elle est bien bonne, en vérité, dit le pigeon, sur le ton du plus profond mépris. J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais jamais une avec un cou comme ça. Non, non, vous êtes un serpent, et cela ne sert à rien de le nier. Je suppose que vous allez bientôt me dire que vous n'avez jamais goûté un œuf. Des œufs, certainement j'en ai mangé, dit Alice, qui était une enfant qui disait toujours la vérité. Mais les petites filles mangent des œufs tout à fait comme les serpents, vous savez. Je ne le crois pas, dit le pigeon. Mais si elles font ça, eh bien, elles sont alors une espèce de serpent. Et c'est tout ce que je peux dire. C'était tellement une idée nouvelle pour Alice qu'elle resta silencieuse pendant une ou deux minutes. Ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter « Vous cherchez des œufs, je sais ça fort bien. Et qu'est-ce que cela peut me faire à moi que vous soyez une petite fille ou un serpent ?» Ça me fait beaucoup à moi, se hâta de dire Alice. Mais il se trouve que je ne suis pas en train de chercher des œufs. Et si c'était le cas, je ne voudrais pas des vôtres. Je ne les aime pas cru. Alors, en fait, ça, comment c'est construit si on regarde un petit peu et si on se souvient que Lewis Carroll, Dobson, est logicien. En fait, c'est un faux syllogisme planqué. Donc les syllogismes, petit rappel, c'est des raisonnements en trois temps, déductifs. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Après, on peut faire des faux syllogismes. Tous les chiens sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chien. Et ça, c'est un exemple de faux syllogisme. C'est exactement le même genre de blague, quoi. Ça repose exactement sur le même genre de blague. C'est-à-dire, les serpents mangent des œufs, Alice mange des œufs, donc Alice est un serpent. C'est un faux syllogisme par une illusion de déduction, mais qui repose en fait sur des emboîtements qui ne fonctionnent pas. Voilà. Les poupées russes ne rentrent pas les unes dans les autres. Bon, il faut être logicien pour penser à des trucs pareils, quoi. Il faut avoir ce type de raisonnement dans la tête pour penser à ce genre de situation. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est à l'image d'un certain nombre de situations que connaît Alice, c'est-à-dire des fonctionnements réglés, mais sur des bases délirantes. Il y a une logique à partir de choses fausses. Et Alice est constamment plongée là-dedans, en fait. Alors qu'elle discute avec les fous avec lesquels elle prend un thé, il y a une réflexion qui va dans le même sens. Très déconcertante. Là, elle discute avec l'un des membres de l'assemblée qui prend le thé, c'est le chapelier, le fameux chapelier, qui est fou, puisque en anglais, on dit « fou comme un chapelier ». Donc le proverbe est appliqué. L'autre personnage qui est présent, c'est un lièvre de Mars, March Hare, parce qu'on dit fou comme un lièvre de Mars. Parce que les lièvres, au moment du rut, ils deviennent fous, quoi. Et elle discute avec le chapelier en lui disant « Alice, avec une certaine curiosité, avait regardé par-dessus son épaule. Elle remarqua, quelle drôle de montre, elle indique le jour du mois et non pas l'heure qu'il est. Pourquoi le dirait-elle ? Marmonna le chapelier. Est-ce que votre montre à vous indique en quelle année nous sommes ? Bien sûr que non, répliqua Alice avec empressement. Mais c'est parce qu'on reste sur la même année très longtemps. C'est justement le cas avec la mienne, dit le chapelier. Alice se trouva terriblement embarrassée. La remarque du chapelier lui parut n'avoir aucun sens, bien que certainement formulée en bon anglais. Voilà, donc ça c'est le même genre de cas de figure, c'est-à-dire la grammaire fonctionne, mais pour produire du non-sens, avec un déroulement logique sur des bases délirantes, quoi. Ce qui est une définition possible de la folie. La folie est une question, un trouble, un problème qui parcourt le texte également. Le chat du Cheshire, lorsqu'il cherche à renseigner Alice, enfin lorsqu'Alice lui demande comment s'orienter dans le pays des merveilles, lui dit « Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre à ce chemin, de toute façon, que vous alliez d'un côté ou de l'autre, ils sont tous fous. » Et elle demande pourquoi, et le chat répond « Parce que nous sommes tous fous. » Le pays des merveilles, c'est un pays où tout le monde est fou, c'est-à-dire logiquement délirant. Bon, sur ce point, les interprétations logiques, le rapport à la mathématique, Lewis Carroll prépare l'Oulipo. Il prépare l'approche littéraire de l'ouvroir de littérature potentielle que Queneau, Pérec, Roubaud, c'est-à-dire des gens qui se donnent des règles mathématiques pour produire de la fantaisie. Bon, voilà donc pour les séries d'interprétations, une série d'interprétations possibles, sachant que dans tous les cas, on cherche du sens. Ce qui est peut-être une erreur. Pour lire Alice. Il y a une scène très, très indicative là-dessus, très, très parlante, pendant le procès, à la fin du texte, où le roi tente d'interpréter un texte complètement abscon qu'on vient de lui lire, pour résoudre la question du vol des tartes, qui est décidément une question entêtante, quoi. Donc on vient de lui lire un texte vraiment, on ne sait pas quoi comprendre de ce texte, et lui parvient toujours à ramener ce texte à la situation qui est celle du vol de Tarte. S'il n'y a pas de signification là-dedans, dit le roi, cela nous épargne une infinité de soucis, vous savez, car ainsi nous n'avons plus besoin d'essayer d'en trouver une. Sauf que c'est ce qu'il va faire. Et pourtant, je ne sais pas, poursuivit-il en étalant les vers sur ses genoux et en les regardant d'un œil, donc citation, dit que je ne peux pas me livrer à la natation. Donc ça, c'est un extrait du texte qu'il vient de lire. Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il en se tournant vers le valet, qui est l'accusé. Donc il plaque la question de la natation, dont on ne sait pas ce qu'elle vient faire dans le texte, sur le valet en lui posant une question totalement absurde, quoi. Vous ne savez pas nager, comme si c'était une manière de le reconnaître. Le valet hocha tristement la tête. En ai-je l'air ? Dit-il. Il faut se dire que c'est une carte. Il n'en avait certainement pas l'air, étant entièrement fait de carton. Jusqu'ici, c'est très bien, dit le roi. Et il continua en marmonnant les vers. Nous savons que cela est vrai. Ça, c'est le jury, bien sûr. Si cette affaire, elle voulait faire avancer, elle, cela doit être la reine. De vous, qu'est-ce qu'il adviendrait ? Quoi donc, ma foi ? Je lui en donnais une, à lui deux, ils ont donné, eh bien, c'est ce qu'il a dû faire avec les tartes, vous voyez ? Mais cela continue avec, de lui à vous, toutes sont retournées, dit Alice. Eh bien, les voilà, dit le roi triomphalement, montrant du doigt les tartes sur la table. Là, qu'est-ce que Lewis Carroll fait ? Il nous montre un type qui interprète, et ça marche. Sauf qu'en même temps, c'est ridicule. Donc, il nous dit ce qu'il faut penser de l'interprétation. Et il conserve la possibilité du nonsense, l'intérêt du nonsense. Donc, ce qu'on appelle le nonsense en langue anglaise, qui est une notion difficile à traduire, mais facile à illustrer. Il y a un vrai plaisir qui parcourt tout le texte à multiplier les énoncés qui ne veulent rien dire d'autre que rien. Par exemple, la dispute sur la possibilité de couper la tête au chat du Cheshire pendant la partie de croquet. À partir du moment où le chat ne fait apparaître que sa tête. Il y a deux camps qui se forment. Parce que le chat peut apparaître et disparaître à son gré. Il peut même faire apparaître uniquement son sourire, etc. Donc pendant la partie de croquet, il n'y a que sa tête qui apparaît dans le ciel. Et il dit des trucs que le roi juge insultants. La reine dit qu'il faut lui couper la tête. Le problème, c'est qu'il n'y a que la tête. Donc le bourreau n'est pas d'accord parce qu'il dit qu'il peut exercer son métier que s'il y a un corps. Et commence une sorte de dispute, en fait, mais au sens disputatio, médiéval du terme. C'est une espèce de concurrence, de démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, effectivement, dans cette dispute ? On peut y voir une allusion au jeu rhétorique un peu débile qu'a connu Lewis Carroll pendant ses études. Vous nous démontrerez que truc, pendant que l'autre doit démontrer le contraire. C'était ce qu'on enseignait. On peut voir là-dedans aussi, pourquoi pas, une critique de la violence d'État appliquée jusqu'à l'absurde. Privé de la vie, bon, effectivement, c'était pas détendre, hein, les souverains de l'Angleterre. Mais aussi, il y a un plaisir de l'impossible résolution. On n'y arrivera pas. C'est ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas de sens. C'est insoluble. Et Alice est peut-être, l'ensemble du texte, un gigantesque non-sens, puisqu'elle ne résout pas un problème qui n'a jamais existé, contrairement au conte. Il n'y a pas de problème au départ, à part éventuellement qu'Alice s'ennuie. Et il n'y a pas de résolution finale. Donc ça fonctionne comme un non-sens. Ça fonctionne aussi, peut-être, puisque Lewis Carroll nous appelle à envisager la question du sense et du non-sense, sur une multiplicité des sens, une plurivocité. Donc c'est pas univoque, c'est plurivoque. Il y a un certain nombre de passages qui nous invitent à cette lecture, c'est-à-dire il faudrait conserver au texte en permanence la possibilité d'être lu dans plusieurs sens, et pas seulement en termes de signification, mais en termes de direction. Pas seulement le sens comme signification, mais le sens comme direction. Lewis Carroll aime beaucoup les questions réversibles. Et ça, c'est présent dans le passage que je vous ai donné. Hein. Do cats eat bats ? Est-ce que les chats mangent des chauves-souris ? Est-ce que les chauves-souris mangent des chats ? On peut inverser l'ordre, puisqu'on n'a pas la réponse. C'est ça qui est génial avec le fait de ne pas obtenir une réponse. C'est que du coup, on peut multiplier les sens de la question. Il y a une grande richesse dans le fait de ne pas obtenir de réponse. Puisqu'on obtient des questions réversibles. La réversibilité, ça intéresse beaucoup Lewis Carroll. La possibilité de revenir en arrière. Bon, il y a certainement quelque chose de régressif là-dedans, l'attrait pour l'enfance, etc. Qu'on peut voir dans les incessants mouvements corporels d'Alice, au sens où, effectivement, elle ne fait pas que grandir en mangeant. Elle peut également rétrécir en mangeant. Donc, il y a un principe de réversibilité qui est à l'œuvre dans son corps. Il y a des passages plus ponctuels qui nous mettent sur la liste de la réversibilité. Le moment où Alice se lève et renverse le banc des jurés. Bon, elle le remet très vite en place parce qu'elle se souvient des poissons rouges et elle sait qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps hors du bocal. Mais Bill, le lézard, elle le met à l'envers. Elle le range à l'envers, donc il est la tête en bas. Alice regarda le banc des jurés et constata que dans sa précipitation, elle avait remis le lézard la tête en bas et que la pauvre petite créature remuait mélancoliquement la queue, tout à fait incapable de se rétablir. C'est quand même génial de mettre la mélancolie à cet endroit-là. Une mélancolie, ouais. Elle le retourna aussitôt et le réinstalla convenablement. Non que cela ait beaucoup d'importance, se dit-elle, car je dirais qu'il n'est ni plus ni moins utile au tribunal dans un sens ou dans l'autre. Bon, voilà. Donc, en termes de réponse, Bill n'apportera pas grand-chose, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut fonctionner dans les deux sens. Donc, elle le remet... Enfin, c'est un passage très fort. Elle le remet dans le sens conventionnel. Hein. C'est un choix de la convention. Mais elle n'est pas dupe. Voilà. Elle sait que le pauvre Bill est... C'est un animal, c'est vrai, un animal du... Il y a un autre exemple autour de ce procès de réversibilité, puisque la reine voudrait que la sentence soit prononcée avant le verdict. Et il faut vraiment qu'Alice s'énerve pour qu'il n'en soit pas comme ça. Quoi. C'est un passage très très drôle. Donc cette question de la réversibilité, c'est là tout le temps. Quoi. Alors, le nonsense, la multiplicité des sens, ça nous invite à revenir sur le mot « wonder », qui est dans « Wonderland », et qui est plus riche que son équivalent français strict « merveille ».« Wonder », c'est pas seulement la merveille, c'est, si on pousse l'expérience de l'émerveillement, c'est l'étonnement. « I wonder », ça veut dire « je me demande », entre autres. Donc c'est un mot plus riche en anglais qu'au français. En ce sens, le nonsense, la plurivocité que je propose, nous renvoie à ce wonder de Wonderland. C'est pas juste un pays où il se passe des choses merveilleuses, c'est un pays étonnant. C'est un pays qui défie le bon sens. Et là-dessus, Lewis Carroll prépare le surréalisme. Enfin, c'est en ça qu'il sera disponible pour les lectures surréalistes, qui sont justement des lectures qui refusent la convention, quoi. Qui cherchent d'autres manières de faire fonctionner le cerveau. C'est vraiment ambitieux, cette idée de surréalité. La lecture de Deleuze va également creuser cet aspect-là, puisque sa page de Deleuze, qui repose en très grande partie sur Alice au Pays des Merveilles, s'appelle « Logique du sens ». C'est bien ça qu'il saisit dans le texte de Carroll comme étant disponible. Une occasion de réfléchir à ce que c'est que le sens et la logique. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire de cette liste d'interprétations ? Deux choses. D'abord, je crois que Lewis Carroll nous montre une propriété cruciale du texte littéraire, c'est-à-dire toujours excéder le sens, toujours vouloir dire plusieurs choses à la fois. C'est ni de la pub, ni de la philosophie, ni de la politique, ni de la conversation ordinaire. Ça peut toujours vouloir dire plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est fort. Et une espèce de crainte du texte littéraire de tomber dans l'univocité, justement, dans le canal qui n'irait que dans un sens. Et je crois que si Lewis Carroll était disponible à la littérature, c'est justement parce qu'il craignait ça dans sa vie à lui. C'est quelqu'un qui souffrait énormément des enfermements. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il s'intéressait autant au jeu. Il a produit lui-même un jeu de cartes, il a produit un jeu de croquet. Tout ça, c'est des éléments qui sont recyclés dans Alice et qui nous font part de ce goût pour l'invention de règles autres que celles de la vie ordinaire, quoi, pour varier les règles de la vie ordinaire. Bon, ça, ce serait la première chose qu'on pourrait conclure de cette série. La deuxième chose, c'est de ne jamais perdre de vue que c'est écrit pour des enfants. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est bien pour les adultes qui lisent par-dessus l'épaule de l'enfant, mais que ça n'est pas ce que se dit un enfant quand il lit Alice. Ou en tout cas, pas comme ça en termes explicites. Et il me semble que la logique décousue du récit doit beaucoup au souci de Lewis Carroll, de la variété, du changement. Les enfants aiment pas s'attarder. Ils aiment bien que ça change souvent, ils aiment bien être surpris, et en même temps, ils aiment beaucoup les règles. Donc il y a un truc entre la règle et l'anarchie qui fonctionne extrêmement bien aussi dans la construction du texte. Bon, la référence au monde de l'école aussi, c'est quelque chose d'important pour que les enfants soient pris par ce texte. Référence en termes de détournement en plus, hein. À ce titre-là, la scène qui associe la tortue et le griffon, c'est la plus délirante. La scène que je vous lisais, la récapitulation que fait la sœur d'Alice de tout ce qui s'est passé, c'est aussi une fonction didactique très bien placée à la fin du texte pour un lectorat d'enfants. On revoit ce qu'on a vu. C'est à la fois un souci d'adulte dans l'éducation de l'enfant et c'est aussi quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Ils aiment revenir. Et puis la fin heureuse. ça aussi, ça nous flèche très directement vers le récit enfantin, quoi. Alors que c'est quand même un texte qui est assez angoissant à pas mal de moments. Ça se termine bien. Donc voilà, tout ce qu'on vient de dire, cette variété d'interprétation, il ne faut jamais perdre de vue que Lewis Carroll la rend disponible tout en accomplissant le contrat d'écriture, je dirais, standard pour un texte pour enfants. C'est pas juste un texte qui offre une multitude d'interprétations intellectuelles possibles, c'est en même temps une bonne histoire pour enfants. On peut très bien lire Alice comme presque un traité de bonne manière, puisqu'elle elle coupe jamais la parole aux gens qui lui racontent des trucs complètement délirants. Enfin, c'est une petite fille très soumise à bien des égards. Donc même la morale peut être sauve. Il est très fort. Je pense qu'il prendrait pas le risque d'être seulement amoral. Ce serait encore trop limitatif, en fait. Bon, voilà pour donc la première approche que je voulais vous proposer, hein, simplement cette espèce de panorama de lecture possible. Et puis je voudrais vous donner une capsule possible pour emporter Alice avec vous, au-delà de cette espèce de champ très très ouvert, trop ouvert peut-être d'interprétation. J'aimerais bien qu'on lise Alice comme une utopie. Une utopie délicieusement inconfortable. Voilà comment je vous propose d'empaqueter ce texte trop vite, mais tant pis. Le pays des merveilles, Wonderland, donc un lieu qui n'existe pas. Littéralement, en grec, utopos. Une utopie, c'est ça, un lieu qui n'existe pas. À moins que ça veuille dire, les étymologies sont concurrentes, eutopia, eu signifiant le bonheur, le lieu du bonheur. Et effectivement, souvent, l'utopie est le lieu où on peut vivre mieux que dans la topie. Or, il me semble que cette deuxième étymologie ne marche pas pour Alice. Que si Alice est une utopie, c'est en tant que non-lieu, pas en tant que lieu du bonheur. Le bonheur, il n'est évoqué qu'à la toute fin, The Happy Summer Days, c'est les derniers mots du texte, et ça se passe pas au pays des merveilles. C'est un souvenir de la réalité. Donc le seul lieu du bonheur, c'est dans le souvenir, qui est très conventionnel, très proustien. Première entrée pour lire Alice comme une utopie, le bonheur n'est pas dans le jardin, ni dans la cour. Côté cour, côté jardin, ça fonctionne pas. Bon, petit rappel, les Britanniques sont très forts en utopie. C'est des grands producteurs d'utopie. Thomas More, Defoe, Swift, tout ça c'est des utopies de genres très différents, mais voilà, ça vient du même bout de terre qui se trouve est une île. Hein. On peut développer là-dessus certainement. Swift, donc bah, Gulliver, hein, c'est un vrai prédécesseur de Lewis Carroll, en ce sens, Swift, parce que c'est le texte le plus proche d'Alice, en termes de délire, en termes de vision, de fantaisie. Et de façon beaucoup plus générale, la découverte du Nouveau Monde depuis la Renaissance repose à toute la vieille Europe la question du paradis, en fait. On a découvert des gens sur une contrée qu'on pensait ne pas exister, qui était une vraie utopie. Hein. On pensait arriver aux Indes, et en fait, il y avait un important continent entre les deux. On a découvert des gens qui semblent vivre soit comme les pires des sauvages, soit comme soit comme Adam et Ève, quoi. Et on passe des siècles avant de décider de quel côté ils sont. En tout cas, ces gens qu'on a découverts sur un continent luxuriant reposent la question du paradis, d'un ailleurs mieux qu'ici. Que ce soit pour dire « c'est pas le paradis, c'est l'enfer », ou que ce soit pour dire « ces gens-là vivent comme nous vivions avant la chute ». La Bible, pour les Européens, c'est l'angle mort du rétroviseur, quoi. Dès qu'on aborde la question du paradis, la question du bien-vivre, le modèle, c'est le jardin d'Éden, quoi. C'est un jardin. Donc, en bon Européen, qu'est-ce qui vous arrive quand vous entendez parler de ces gens qui vivent dans le Nouveau Monde? Vous vous demandez, est-ce qu'ils sont dans le jardin? Est-ce que c'est eux qui vivent dans le jardin? Il y a toute une rêverie sur le jardin qui réémerge à partir de la Renaissance de façon formidablement puissante, quoi. C'est d'ailleurs une époque où l'art des jardins se transforme, on n'est plus du tout dans le jardin médiéval. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alice? Ben, pendant toute la première partie, ces deux tiers-là dont je vous parlais au début, on dirait que Alice au Pays des Merveilles reconduit une vision de l'Eutopia sous forme de jardin. Au sens où Alice, par une petite porte, voit un endroit qui a l'air formidable. Et elle passe toute son énergie à essayer de l'atteindre. Elle veut l'atteindre parce que ça a l'air d'être le bonheur. Le bonheur a l'air d'être dans le jardin. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où elle a la bonne taille, et où elle a le bon accessoire, une clé pour ouvrir la petite porte, bah en fait, dans le jardin, c'est l'enfer. C'est-à-dire, c'est les autres. C'est la société la plus contraignante qui soit. C'est la cour, qu'on lui coupe la tête. Donc, l'utopie comme eutopia, comme lieu du bonheur, est congédiée par Lewis Carroll. Si Alice est une utopie, c'est pas comme eutopia. C'est comme non-lieu. C'est comme lieu n'existant pas. On pourrait ouvrir à une interprétation pessimiste du récit. Je crois que c'est trop simple, mais c'est une pente possible. Bon, voilà pour l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans le temps? Puisqu'une utopie est aussi une uchronie, généralement. Un temps qui n'existe pas. Bah, effectivement, c'est un temps très spécial. On n'arrive pas à savoir quel est le temps de Wonderland. On ne connaît pas sa nature. Il n'est pas clair. D'un côté, le lièvre est toujours pressé, alors qu'il a une montre, et tout de suite. C'est-à-dire l'instrument de lissage par excellence du temps. C'est vraiment l'outil qui permet de ne pas être pressé, la montre, puisqu'on peut déterminer des échéances. On peut se donner des rendez-vous. Donc, malgré la montre, le lièvre est toujours pressé. Donc, le temps va trop vite. Et il va trop vite, désespérément. Même quand on a une montre, ça marche pas. De l'autre, scène du thé des fous, The Mad Tea Party, le temps est arrêté. Le thé n'en finit pas. Ça, il se peut que ce soit une complainte de Lewis Carroll à l'égard de cette espèce de rituel social structurant à son époque. Hein. C'est quelqu'un qui supportait sans doute pas ces réunions autour d'une boisson. Mais c'est aussi la mise en place d'un temps gelé, d'un temps qui ne s'écoule pas. Il y a une scène assez drôle qui va être importante par la suite où donc le chapelier est appelé à comparaître au tribunal et il est en retard, il y a un truc qu'il n'a pas fait, il n'a pas bien fait. Et comme excuse, il dit « Excusez-moi, mais j'étais en train de prendre le thé, j'avais juste commencé, ça faisait à peine une semaine. » Puis bon, il y a cette montre qu'il a et qui marque le temps de façon bizarre. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des déroulements multiples. On a l'impression qu'au Pays des Merveilles, le temps, c'est les temps. Il y a des temps qui se déroulent parallèlement et qu'il faut sauter d'un canal à l'autre. Il n'y a pas une durée. Là-dessus, c'est beaucoup moins étonnant du coup que le corps soit inadapté. Hein, troisième point dans cette utopie. Le corps est inadapté. Le corps d'Alice est inadapté. Comment on peut le définir? Inadapté. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure? C'est un corps mis à l'épreuve dans un espace-temps. Si je raisonne de façon très abstraite, une aventure, c'est un corps mis à l'épreuve dans un espace-temps. Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, et c'est pour ça que je tiens au titre complet, c'est une drôle de mise à l'épreuve. D'habitude, les aventures, c'est les exploits, ou en tout cas les choses remarquables. Le premier titre de Robinson Crusoe, c'est un titre interminable, hein, qui dit les aventures de Robinson Crusoe sur son île, raconté par lui-même. Voilà, les films d'aventure, on est habitué à ce vocable comme associé à des exploits. Ici, il n'y a pas des exploits. Les aventures d'Alice, c'est une inadéquation d'échelle, pendant un certain temps. Son corps n'est jamais à la bonne échelle par rapport au lieu. Et l'équilibre n'est pas retrouvé par la prouesse, il est retrouvé par un juste dosage des produits. Surtout les champignons. C'est les champignons qu'elle va vraiment apprendre à bien maîtriser. Les morceaux de champignons. Donc la chenille hein, qui est assise sur un champignon et qui finit par lui dire d'une façon tout à fait sibylline à la fin de l'entretien « Prenez un morceau de chaque côté, vous retrouvez votre taille normale. » Et là, elle se retrouve face à un champignon totalement circulaire et elle se pose la question des côtés. Vous voyez les blagues. Mais ça, c'est vraiment fort parce que c'est plus qu'un truc de potage, quoi. C'est vraiment puissant. Où sont les côtés d'un champignon? Parce que du coup, c'est un risque. Comme il y a un personnage, c'est pas juste une blague pour l'esprit, c'est un risque pour un personnage. Donc ça crée de l'empathie, ça, c'est très fort. Alors, pour en finir avec cette histoire d'inadéquation d'échelle, le retour à la taille normale a pour équivalent une sortie du monde des merveilles. Alice redevient grande pendant le tribunal, pendant le procès, et elle ne recouvre sa taille qu'au moment où elle se réveille, en fait. Donc son corps redevient adapté quand elle sort du Pays des Merveilles. C'est là que le Loir lui dit « Vous n'avez pas le droit de grandir ici ». Bon, quatrième point dans cette utopie, je m'obstine à vous montrer comme inconfortable, hein, pas tellement comme délicieuse, mais je vais y venir. Un langage glissant. Au Pays des Merveilles, on parle une langue particulière, et elle est inconfortable elle aussi. Bon, sur le plan de la logique, j'ai plus rien à vous apprendre. Par contre, on pourrait parler du son, ce qu'on appelle le signifiant, quoi, du côté sonore. Du côté oral du signifiant. Le signifiant, c'est aussi les petites traces là auxquelles on attribue un sens, au niveau écrit, mais au niveau oral, le signifiant, c'est le son, quoi. Ce qui porte la signification. Le son semble agir comme une série de trappes. Et je pousserai même le bouchon jusqu'à dire, après tout j'ai le droit, une série de terriers. On a l'impression que le langage est toujours susceptible de s'ouvrir sur des terriers. Et de faire tomber Alice. Alors que c'est une petite fille qui maîtrise bien le langage à l'âge qu'elle a appris, Elle a bien appris ses leçons, en plus, c'est une élève appliquée. Elle redécouvre, ou elle découvre, parce qu'un enfant, infant, littéralement, c'est celui qui ne parle pas, un enfant. Alice, elle parle, mais elle découvre la crainte de quelqu'un qui a appris, mais dont le code ne fonctionne plus. Pourquoi ça fonctionne plus? Parce que à chaque instant, le son des mots est susceptible de faire échouer le sens, de faire sombrer le sens, de faire tomber, comme s'il y avait des trous. Il y a des trous de sens, à cause du son. Exemple, et là c'est le chapelier, quand il doit se justifier d'être en retard au tribunal, il dit « tout commence par un T ». Tout a commencé par un T. Et le roi lui dit « évidemment, tout commence par un T ». C'est-à-dire « tout », la première lettre, c'est « T ». Tout commence par un T. Et donc le roi, qui est le juge, aussi à ce moment-là, il a sa perruque de juge et sa couronne dessus, du coup ça glisse, ça, c'est un problème, mais c'est quand même, il maîtrise les deux pouvoirs. Le roi est susceptible de punir. Donc là, on voit typiquement les problèmes posés par le langage en tant que ses signifiants sont tout le temps troubles, en fait. Tout le temps susceptibles de se trouer, quoi. On peut mal prendre ce que vous dites. Ou alors, on peut partir, à partir du son, vers une interprétation à laquelle vous n'aviez pas pensé, que vous ne comprenez pas. Voilà, il y aurait toutes sortes d'exemples à vous donner, mais la scène la plus croquignole au niveau du son, c'est la rencontre avec... la mock turtle, la tortue façon tête de veau, qui en fait ne parle que par calembour, mais calembour involontaire. Donc Alice lui demande ce qu'elle étudie à l'école, puisque la tortue est une tortue qui est allée à l'école, et la tortue lui répond uniquement par des approximations sonores, en fait. Du coup, c'est un enfer à traduire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle étudie du côté des sciences? Les différentes branches de l'arithmétique, qui sont l'ambition, la distraction, l'enlédification et la dérision. Donc il faut comprendre l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Et elle parle constamment comme ça, en fait. Elle fait que des erreurs de son. Donc Alice ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut la reprendre? Mais c'est un personnage très triste dont elle a pitié. Donc, enfin voilà. Elle est constamment mise en difficulté par le son. Alors, les différentes branches de l'arithmétique, c'est l'ambition, la distraction, l'enlaidification et la dérision. En anglais, c'est ambition, distraction, uglification, où on entend beaucoup plus multiplication d'ailleurs. Multiplication, uglification, and derision, à la place de division. I never heard of uglification. À l'école, elle apprenait, la tortue, elle apprenait français, musique et blanchissage. Voilà, il y a un autre élément langagier qui est glissant, de façon extrêmement récurrente au Pays des Merveilles, c'est les expressions figées, les expressions toutes faites. Les expressions toutes faites sont prises au pied de la lettre, en fait, au Pays des Merveilles. Et généralement, ça a des conséquences fâcheuses. C'est-à-dire, comme on dit « fou comme un chapelier », le personnage du chapelier est fou, typiquement. Et du coup, il va falloir supporter pendant des heures des raisonnements fatigants, absurdes, etc. Lewis Carroll passe son temps à reprendre des expressions toutes faites pour les prendre au pied de la lettre. Et évidemment, c'est très plaisant pour un enfant, puisque son apprentissage consiste à comprendre ces choses-là qui sont extrêmement mystérieuses. Et puis là, il y a quelqu'un qui lui offre la possibilité de s'amuser avec. Donc c'est très jouissif, mais c'est jouissif pour l'enfant qui reçoit. Pour Alice, c'est systématiquement des situations désarçonnantes. Alors ça m'amène au dernier point de cette lecture en termes d'utopie. Dans quelle position est-ce que le texte place son lecteur? Donc je reboucle sur la question de la lecture qui a ouvert mon explication. Le Pays des Merveilles est inconfortable pour Alice. Et pourtant, on adore lire Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi? Parce qu'on ne se met pas à la place d'Alice. Ça a l'air de rien ce que je vous dis, mais c'est vraiment important. Là, ça ouvre à des abîmes de réflexion. C'est une utopie inconfortable pour Alice, mais délicieuse pour le lecteur. Ce qui pose la question très profonde du comique et de la distance. Là-dessus, je vous renvoie vers Bergson, son livre qui s'appelle « Le rire, essai sur la signification du comique », où il montre que le rire est presque systématiquement un mécanisme sadique, c'est-à-dire on rit de la douleur de l'autre, on a du plaisir dans la douleur de l'autre. L'inconfort du personnage, c'est la condition de notre régal. Donc on adopte une position presque sadique en lisant Alice. On a du plaisir à la voir galérer, quoi. Bon, ça, c'est le plaisir de l'adulte qui lit Alice. L'enfant... beaucoup plus facilement, il est dans une position d'identification, d'empathie. C'est un petit enfant comme Alice. Et c'est bien pour ça qu'Alice est là. C'est pas simplement dans la tête de Lewis Carroll pour offrir le livre Alice à Alice Liddell, la petite Alice qu'il connaît. C'est aussi parce qu'il sait qu'un enfant fonctionne par empathie, par identification. Donc voilà, au terme du parcours d'interprétation, on peut dire, ce qui se pose à nous, c'est la question qui est très très importante dans l'interprétation des œuvres, de la dichotomie entre l'empathie et la distance. Donc c'est une question qui a surtout été posée par les théoriciens et les praticiens du théâtre, et depuis très très longtemps, hein, puisque Aristote dit que le théâtre marche parce qu'on s'identifie au personnage, par la terreur et par la pitié. C'est ça le mécanisme théâtral qui en fait même un mécanisme de purge, hein, pour Aristote, un mécanisme de catharsis. On se vide de nos émotions les plus prenantes parce que des autres vivent la situation pour nous. C'est un mécanisme par procuration. À l'opposé, Brecht, au XXe siècle, propose un mécanisme inverse, hein, en s'opposant clairement à Aristote sur plan théorique et sur plan d'écriture pratique, hein, avec sa théorie de la distanciation. Il faut toujours proposer au lecteur, au spectateur, il ne faut jamais faire disparaître le cadre qui lui dit « ceci est une fiction ». Il faut toujours qu'il soit maître de son identification à ce qui se passe, de telle sorte qu'il ne soit pas manipulé. Dans la tête de Brecht, il y a un rapport très fort à la politique là-dedans. C'est l'époque des totalitarismes. Donc, il cherche un théâtre antitotalitaire. Donc, à son sens, un théâtre non-aristotélicien. Un théâtre qui n'appelle pas l'adhésion. Bon, donc ça, c'est des questions que pose le théâtre très fort, mais qui sont capitales pour la littérature en général. Est-ce qu'on est aux côtés du personnage? Est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on pleure quand on lit Madame Bovary? Ou est-ce qu'on se moque d'elle? Et je crois qu'une des vertus d'Alice en tant que récit pour les enfants, c'est de leur proposer les deux choses, quoi. Ne pas choisir. Oui, tu peux t'identifier, tu peux te poser des questions angoissantes d'identité à travers Alice, et en même temps, tu peux te moquer d'elle. Tu peux la trouver trop polie. Tu peux apprécier qu'elle finisse par casser le cadre dans lequel elle s'est mise elle-même par son rêve en disant aux cartes « Vous n'êtes que des cartes », quoi. Ce qui est le grand moment de distanciation du texte. « Vous n'êtes que des cartes » et puis tout s'arrête, quoi. Bon, voilà pour ce qui est de la lecture. Je voudrais vous donner quelques éléments d'influence que ça a pu avoir sur mon travail. Puisque, pour écrire, j'ai lu, quoi, en lisant, en écrivant. Je vais vous lire un passage de Nouveaux Indiens, en fait, ça va être le plus simple. C'est au début, donc le personnage vient d'arriver aux États-Unis et il s'installe en colocation. Donc on lui offre une liste des consignes pour vivre dans la nouvelle maison. Consignes pour vivre au 510 avenue d'Alcatraz. 1. Cet espace est votre espace. Tâchez d'y trouver chacun votre confort intime et d'y créer à vous tous un sentiment de communauté. 2. Vous remarquerez que le sèche-linge est payant. Prévoyez de la petite monnaie avant le dimanche matin. Pièces de 10, 20, 30, etc. Je ramasse la monnaie une fois par mois. 3. Décoration d'intérieur. Tout est permis du moment que vous vous mettez d'accord et que l'espace redevient complètement neutre lorsque vous quittez les lieux. Vous pouvez planter des clous en journée. Je ne suis pas là et ma mère est sourde. 4. Nettoyez régulièrement la douche. Les parois deviennent très vite moussues. Utilisez de préférence les produits d'entretien Marée Verte, Bioménage, etc. Notre terre, c'est un peu comme le jardin derrière la maison. Le savon is no good for the soul. 5. L'anglais, c'est un peu comme le français. Soap, savon, soupe, soul, moule, marée, etc. 6. Le ménage, le jardinage, c'est un peu comme le Big Bang. Mon savon prête à conséquence, responsable devant le cosmos. Tu pollues ton jardin, tu pollues ta planète. No jet lag de la faute, cet espace, votre espace, gros bang, grand opéra du savon, etc. 7. Etc. 8. Dans ma tête, tout se mélange alors que je signe un contrat de location, il ne faut pas, j'écris mon nom. 9. Etc. Vos loyers sont volontairement bas. En retour, je vous demande 2 heures de jardinage par semaine, ça développe entre nous un fort sentiment de communauté, et ça soulage mes reins. J'espère que de votre séjour au 510 avenue d'Alcatraz, vous retiendrez ceci. 10. Jardiner, c'est très bon pour l'âme. 11. Badiner, c'est savon pour Sam. 12. Gratiner, c'est very good for the soup. 13. Gardening is very good for the soul. Signé, la propriétaire, Cinnamon Vale, le locataire, à l'anthropologue. Voilà, donc, j'ai pas beaucoup à développer, en fait. Je crois que c'est assez clair, quoi. Il y a à la fois le procédé logique de la liste, qui est respecté, donc qui donne une conduite de sens inamovible, et en même temps, du coup, les possibilités de faire merder le sens, quoi. De nous faire sortir du contenu de la liste habituelle, quoi, puisque l'énumération est respectée. Donc il y a ça, il y a le jeu sur les signifiants, sur les sons, justement, qui passe en grande partie par le jeu d'une langue à l'autre. Et ça, c'est une influence d'Alice, mais qui est presque involontaire. Enfin, comment dire, c'est pas le texte d'Alice qu'il contient, c'est les éditions d'Alice. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu entre l'anglais et le français. Ce qui était génial avec les éditions d'Alice, c'est qu'elles étaient, enfin, les deux versions étaient présentes sur chaque page, comme ce que je vous propose là. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous donner les pages sous cette forme-là, parce que Alice permettait le va-et-vient, quoi, et pas seulement l'application d'un code ou de l'autre, mais la recherche demandée par aucune école de passage entre un code et l'autre. Typiquement, comment est-ce qu'on transforme une phrase en français en une phrase en anglais par des voies phonétiques. Jardiner, c'est très bon pour l'âme. Badiner, c'est savant pour Sam. Gratiner, c'est very good for la soupe. Gardening is very good for the soul. Donc ça, on l'apprend pas à l'école. C'est des jeux offerts par la marge, en fait, par la ligature. Voilà, donc en fait, j'avais envie de vous parler assez généralement du rapport au son et au sens qui est important pour moi, et du fait que dans un texte comme celui de Lewis Carroll, il y a les calembours qui sont là. C'est une première ouverture au langage comme son qui m'a beaucoup marqué, en fait. Ça permettait de recouper l'autre domaine qui m'intéresse le plus, qui est la musique. Voilà, il y a un aspect sonore dans la musique comme dans la littérature. Ça se recoupe par le son du langage. Donc Gardening, ce passage, ça vous permet de prendre la mesure de ce que ça donne appliqué quand je m'y mets. Ce que je voulais vous dire, c'est que le calembour, ça a été une porte d'entrée. Qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, le point où j'en suis, c'est plus tellement sur le son, c'est plutôt sur le rythme. C'est-à-dire, je m'intéresse plus autant aux proximités sonores entre les mots et aux jeux que ça offre, mais ça m'a ouvert à la question du rythme, donc à la question du retour d'un mot à l'autre, que du passage sonore d'un mot à l'autre.